Vous écoutez
RMC. Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show comme tous les dimanches, minuit on est ensemble. Salut Moundir.
Salut mon Daniel, j'espère que tu vas bien après notre partie de poker hier, de l'anniversaire justement de notre cher boss Grégory Chauchon.
C'est vrai,
alors
c'est vrai.
Alors je te dis, j'ai tout rasé.
C'est vrai que le directeur des WSOP était à Paris et qu'on en a profité pour fêter son anniversaire et toucher 2-3 cartes.
Exactement.
Voilà.
Et gratter aussi.
Et j'ai vu que la chance n'était jamais très loin de toi. Tant mieux. Mais sache que c'est pas les petites parties d'anniversaire qu'il faut gagner.
Ah, effectivement.
C'est celle où il y a des gros billets qu'il faut gagner.
Les 20 ans des WSOP ou les 50 ans.
Parce qu'aller gagner les tournois où il y a juste 3 jeux de grattage à gagner, ça n'a pas grand chose. C'est comme une partie d'enfant. Moundir, on a un super programme
énorme
ce soir avec, dans un instant, une interview enregistrée. Parce que tu sais qu'Yo Viral, c'est le gars qui est en ce moment le plus dur à toucher.
Exactement.
Il est toujours, je crois qu'il vit dans un avion.
Mais c'est ça.
Il est toujours des parties de pancarte dans un avion.
Il a fait la loi Carrez dans un avion, effectivement.
Il est toujours en vadrouille. Donc on l'a chopé un peu cet après-midi. Donc interview enregistrée que vous écouterez dans un instant. He's back from LA.
Ah ouais,
Yarkal Amusa,
le youtubeur américain.
Je suis défoncé par le jet lag, mais réveillé à 3h du matin.
Moi, je pensais te croiser hier soir à l'anniversaire de Greg Chauchon.
Bah ouais.
Et on me dit, il est dans l'avion.
Exactement.
Ah non, pas du tout. Je suis arrivé à.
Ah merde, alors là, on gaffe, là, pour le coup.
19h, ouais. Mais c'est pas grave, de toute façon. C'est toujours la même chose.
Oh, mais. Putain. Merde. Bah, oui, je crois que c'est ce qui s'appelle une gaffe en direct.
C'est pas grave.
Totalement en direct. Bah oui, écoute, tu t'en prendras à qui tu veux. Maintenant, au point où on en est, autant te dire la vérité. On m'a dit que t'étais dans l'avion, machin.
Exactement. Voilà.
T'inquiète pas, moi, je t'inviterai.
Voilà,
moi, tu seras toujours mon ami.
T'es le seul qui m'est fidèle.
Voilà. Jamais j'aurais fait un coup pareil, moi.
Ça serait l'amitié de 20 ans, sur ma vie.
Moundir, nos invités ce soir.
Général,
j'en ai parlé, mais par ailleurs.
Ça fait du bruit, hein.
On avait perdu sa trace.
Oui.
Benjamin Pollack de retour dans le RMC Poker Show.
Allez.
Bah, bonsoir à tous.
Mais
ça fait plaisir d'être là.
Mais est-ce que c'est possible que. Enfin, à Vegas, j'épluchais tous les jours, je regardais toutes les parties. Je voulais pas croire, on m'a dit non, Benjamin Pollack, il va pas aller à Vegas. Je dis, écoutez les gars, me racontez pas d'histoire, c'est impossible. Donc tous les jours, je cherchais.
J'ai longuement hésité à y aller. En fait, je respecte tellement ce tournoi que je voulais y aller dans les meilleures conditions possibles. Ça faisait 2 ans que j'avais pas joué, je voulais pas y aller en touriste avec des tongs et je préférais attendre. Et aussi, c'est parce que je m'occupe de ma petite femme qui attend une merveilleuse.
Ah, non, mais c'est pas vrai.
Bravo.
Ah, il y a une raison un peu, parce que le coup du je respecte le tournoi, machin, Moundir, il respecte à mort les WSOP, il a pas des meilleurs résultats que toi quand tu le respectes pas. Hein.
Je sens chaud, c'est bizarre, ça fait déjà 2 dimanches, je change pas.
Moi, je peux t'assurer, l'année prochaine, c'est la grande nouvelle, c'est quand même que l'année prochaine, je vais y aller, je t'assure que je vais respecter à mort les WSOP, je suis pas sûr que je vais avoir des résultats. Hein. Il s'agit pas uniquement de
les respecter. Le plus important, c'est que les joueurs te respectent à table après.
Ouais.
Ça, c'est une autre étape.
Tu me l'enregistres, s'il te plaît.
Là, c'est une autre étape, je suis pas sûr. Est-ce que tu penses que. Enfin, les mecs qui me connaissent pas, ils peuvent me respecter, Pierre?
Franchement, sur ce tournoi, il y en a qui respectent personne.
Ouais. Ah non,
même pas eux-mêmes. Ouais, même pas, surtout pas eux-mêmes.
Pas eux-mêmes, ouais.
Bon. Ouais. Mais je pense que par contre, t'as un style de jeu qui correspond bien à ce genre de tournoi où des qualités comme la patience, la rigueur, etc. peuvent être récompensées.
Donc, on m'a envoyé une photo tout à l'heure de la partie amicale d'hier soir.
Ouais.
Sur la photo, je te jure, j'ai l'air d'un bon joueur. Je vais te montrer la photo. C'est de la radio où personne ne voit, mais vous entendrez juste sa réaction. Et vous allez voir que, franchement, ça fait bon joueur.
C'est sûr que Daniel, lorsqu'il s'assoit table à Las Vegas, par exemple au WSOP, il a un peu quand même le look Scandi, tu vois. On dirait un petit lituanien.
Parce que j'ai pas l'air d'un vrai joueur sur cette photo. Ouais,
voilà. Par contre, le reste du field, je fais pas trop peur.
Je suis d'ailleurs Moundir sur la photo.
Quoi,
Il y a pas Jérémy Sirvin. Il a l'air d'un joueur amateur, lui, à côté de moi.
Notre producteur.
Voilà. Terminons de présenter les invités.
Ah bah oui,
alors ça, même. C'est alors bon.
C'est inédit.
On voulait parler de ça depuis pas mal de temps.
Depuis longtemps.
Peut-être que nous comprendrons pas tout au thème du soir.
Quand on a,
c'est pour ça qu'on a. C'est pour ça qu'on a Benjamin Pollack aussi avec nous parce que c'est un spécialiste.
Eh oui.
C'est Julien Enrodias. Bonsoir Julien.
Hello.
Salut, Julien. Et tu es là pour nous parler de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies. Je crois que c'est comme ça qu'il faut dire.
Exactement. Voilà. Il en existe plusieurs.
Mais les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il s'y vient faire dans le RMC Poker Show? Mais c'est parce qu'il y a des liens forts entre les crypto-monnaies et le poker.
Alors, il y a pas mal de liens et en fait, il y a même des études sociologiques qui ont montré que du coup, les joueurs de poker avaient plus d'appétence pour prendre des risques aussi dans les investissements financiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle pas mal de gambling aussi sur la crypto-monnaie. Mm-hmm. Et donc, forcément, il y a un petit lien sous-jacent qui est sur comment est-ce qu'on maîtrise ses risques, comment est-ce qu'on maîtrise une bankroll. Ben, en réalité, dans la crypto, c'est un peu la même chose.
Eh bien, écoute, tu vas nous raconter tout ça. On aura les commentaires avisés sur ce thème-là de Benjamin Pollack. Pierre, je ne sais pas si tu es au fait de ces crypto-monnaies. On n'en a jamais parlé ensemble. Je ne sais pas si ça te botte ou pas.
Non, alors il y a eu deux modes extraordinaires qui étaient d'une part les crypto-monnaies, d'autre part les NFT. Et j'avoue que j'y comprends strictement rien. Donc j'attends.
Eh ben, tu seras là comme moi. T'écouteras comme moi. Parce que Mundia, il est entre nous deux. Lui, il est un peu dedans. Enfin, il a envie d'être dedans. Il est fasciné.
Ah ouais, non mais moi je suis fasciné, voilà, forcément.
De toute façon, quand il y a de l'oseille, mon Dieu, il est fasciné.
Non, mais en fait, plus, genre lui, non. Ouais. Parce que lui, non, lui.
Ah
lui,
il a ta... si, moi, oui. Mais moi, je l'avoue, moi.
Il a même les monopolies de luxe, sans ma vie.
Allez, on va commencer l'émission comme premier avec notre premier invité. Alors, je rappelle, c'est une interview enregistrée, Moundir. On l'a eu cet après-midi entre deux avions, YoViral. Évidemment, l'interview, pourquoi il est avec nous, c'est la très belle performance cette semaine à Rozvadov pour YoViral, qui est en train de conclure une année assez étourdissante.
Ouais, c'est exceptionnel.
C'est parti pour ces quelques questions qu'on lui a posées et les réponses. On se retrouve dans un instant.
Jusqu'à une heure.
C'est le RMC Poker Show.
Quelques jours maintenant après ta belle perf à Rozvadov, tu fais quoi comme analyse de ton tournoi, Yo ?
Bonsoir, Daniel, Moundir et Jérém. Alors, comment j'analyse ce tournoi ? J'étais déçu, évidemment, d'avoir fait deuxième, surtout sur le moment. Il y avait encore beaucoup d'inconnus sur. Notamment le heads-up, ce qu'il avait dans certains pots. Notamment, j'ai fait un énorme fold en heads-up. Surtout qu'il est un peu foufou, hein, ce joueur. Hein. Vous l'avez peut-être pas vu en ta finale, mais il a quand même bust volatile à, il me semble-t-il, 10 ou 15 left. Il a notamment 3 bêtes 4 et 2 off pré-flop. Moi, au D2, il m'avait fait 3 bêtes all-in, 8 et 2 suitées contre un raise UTG1 de ma part, pour 30 blindes. Donc c'est pas le joueur lambda. Quand ils l'ont décrit comme un vendeur de voiture, bah c'est juste un joueur pro en fait qui se décrit comme un vendeur de voiture à mon avis pour le fisc, mais qui a une couverture, mais non, c'est un joueur pro, mais un peu foufou. D'où le fait que j'ai fait d'ailleurs que j'ai 4 bêtes sur le roi dame suité. Ouais, j'étais déçu d'avoir fait deuxième, mais après quand j'ai vu le replay toutes les mains, enfin j'étais vraiment content en fait. Je me suis rendu compte que j'ai fait le max en fait. J'ai démarré troisième la table finale en jeton et j'ai fini deuxième, notamment grâce au roi 10 que j'ai 5 bêtes, je pense. C'est ce qui m'a fait passer chip leader. 5 bêtes et aussi à faire folder à 3 ensuite sur la turn. Mais voilà. Quand j'ai vu le replay, avec les cartes qu'il avait en heads up versus moi, enfin j'ai fait le max.
Yo, une question pour toi, ça fait la deuxième fois que tu échoues le bracelet des WSOP. Est-ce que pour toi maintenant ton but ultime c'est de choper ce Graal, ce magnifique bracelet?
Ouais, au dernier WSOP de Vegas, j'avais fait deuxième sur le 3K shootout sur un event, donc c'est sûr que j'étais passé à ça du bracelet et là je repasse à ça du bracelet. C'est frustrant, mais en fait Negrano a dit qu'il avait deux fois plus de deuxième place que de première place. Je pense que ça fait partie du processus, tout simplement. Faut pas oublier que je me suis mis à grinder les MTT régulièrement à partir de 2019 seulement, que pendant 10 ans de ma carrière 80-90% de mon volume c'est du cash game qui n'est pas indiqué sur London Mob et dont on ne parle pas dans les médias. Donc avoir déjà deux deuxième places en finalement deux séries grinder de tournoi, puisque ça fait que deux séries au niveau des WSOP que je suis grinder de tournoi, je trouve ça vraiment satisfaisant, mais je me contenterai pas de satisfaisant, donc il va falloir que j'essaie de péter un bracelet au prochain WSOP. Voilà.
Sur les 10 dernières années, t'as jamais dépassé les 204 gains annuels en tournoi. En 2021, t'en es déjà à 2,6 millions. Comment t'expliques ce changement de dimension, de galaxie dans ton poker?
Alors ouais, c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui le savent pas forcément. Mais du coup, ça va être réannoncé là. Ou faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour l'expliquer. Mais je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps le savent. Je suis joueur de cash game, moi. Donc en fait, le cash game, c'est pas sur London Mob. Et du coup, je faisais des tournois le dimanche, quoi. Je faisais des tournois le dimanche, mais faire des tournois le dimanche, est-ce que c'est un joueur du dimanche, quoi, en tournoi? Du coup, voilà. Et c'est des tournois online aussi. Quand j'allais sur les événements que type EPT, type même quand j'étais sponsor au PMU, j'allais pour le cash game. Je faisais le main et basta, quoi. je faisais le main et deux events sur Vegas et voilà, c'est tout. Je grindais 12 heures par jour en cash game, enfin 12 heures, ça dépendait des jours, mais voilà. Donc j'ai monté d'abord l'argent en cash game pour pouvoir ensuite me permettre de jouer des tournois plus cher, enfin faut jouer vraiment des tournois importants. Et évidemment ensuite j'ai eu un gros coup de boost grâce à mes investissements en crypto. J'ai revendu à un prix assez important qui me permet de jouer aujourd'hui les plus gros hurleurs au monde. Voilà, tout simplement. Et du coup bah forcément Endenmov va monter, mais bon, c'est pas non plus une fin en soi. Le but c'est de gagner des titres, de prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai peut-être moins de plaisir, c'est ça que je devrais expliquer, à juste grinder le cash game et essayer de faire mon hourly, mon taux horaire en cash. Mais j'ai plus besoin de vibrer, de faire vibrer ma communauté aussi, mais surtout de gagner des titres en fait. C'est un besoin que je ressens maintenant. Et je pense que c'était voilà, ça a été step by step au final.
Yo, pour toi maintenant la suite, ça va être quoi dans l'immédiat? Dans 10 ans à peu près, tu te vois comment?
En 2022, mon objectif, c'est de faire partie des meilleurs joueurs de tournoi au monde. Donc je vais essayer vraiment de représenter la France sur les plus gros tournois pendant tout 2022 et sûrement par la suite aussi. Donc voilà pour l'objectif principal et objectif secondaire, gagner un bracelet. Si j'en gagne pas, mais que je fais je sais pas, deuxième, troisième de plein de gros tournois, au final c'est très bien aussi. Mais voilà, ce serait quand même cool d'en prendre un au passage.
Jusqu'à une heure.
C'est le RMC Poker Show.
Voilà donc pour ce court moment, mais il fallait absolument qu'on ait Yo Viral au téléphone quand même après cette très belle semaine. Benjamin, Pierre, comment vous expliquez? Vous avez un regard là-dessus sur son année? On a l'impression qu'il a
son parcours.
Il a changé de dimension cette année. Comment vous, quel regard vous portez là-dessus?
Ben, il s'est déjà, je pense, beaucoup amélioré en tant que joueur. Maintenant, c'est un top joueur mondial, je pense. Et aussi, il a fait plus de volume et il a joué plus cher. Et on sait que quand on joue plus cher sur les high rollers, les super high rollers aussi, il y a un petit peu moins de, il y a beaucoup plus de deep run possible et beaucoup moins d'entre guillemets, de variance parce que les fils sont plus petits. Là, il a quand même fait l'exploit de gagner à la fois des très hauts buy-in avec petit field. Par exemple, il a gagné, il me semble, un 25 000 euros à Malte, non, à Chypre, pour 500 000 euros, qui était un tournoi donc à très haut buy-in avec peu de joueurs, puisqu'il n'y a que 20 buy-in à gagner. Mais il a aussi perfé sur un tournoi main event, où là, il y a pour le coup, il y a presque 1000 joueurs, il me semble, il a fait deuxième du WSOP Europe. Donc il a un peu vraiment une année très complète de sa part, et je suis très heureux pour lui parce que c'est un bon ambassadeur pour notre passion qu'est le poker, et je suis content qu'il réussisse avec brio.
Monsieur Pollack, quelque chose à ajouter?
Ouais, non, je suis d'accord. Je suis content de le voir sous les feux des projecteurs. Il a beaucoup bossé le jeu, et c'est vrai qu'en fait, dernièrement, il a beaucoup moins de pression financière. C'est que ça a beaucoup marché pour lui, notamment dans la crypto.
Ah, mais ça va nous faire une belle transition, ça. Merde. Passes décisives de Ben.
Au-delà de ça, c'est un mec qui a su surfer sur sa vague, qui a su surfer sur sa confiance, qui est monté au fil des années. Et c'est vrai, quand maintenant on le voit à table, quand je l'ai vu, j'ai regardé la table finale à Rosvadov, c'est pas le même Yo Viral qu'avec qui j'ai joué il y a 2-3 ans. Notamment
dans l'attitude, tu veux
dans
dire
l'attitude. Ouais. Il a une attitude à table de champion, même dans sa préparation. Il fait beaucoup plus de sport qu'avant, il se prépare beaucoup plus, il est accompagné par différents coachs. Et voilà, et c'est le résultat du nombre d'années de travail en fait. Ça vient.
Est-ce que le fait qu'il ait longtemps consacré sa carrière au cash plus qu'au tournoi, ça a pu jouer aussi? Parce que ça fait combien de temps?
Oui, bien sûr. Parce qu'il faisait moins de volume. Il faisait moins de volume. Ouais. Mais surtout, tu sens qu'il est vraiment devenu riche. Ça c'est vrai. Hein. Tu sens que maintenant, il peut faire le 250 000, le 100 000 sans avoir de pression, en jouant vraiment à fond, etc. Et ça, ouais, je pense que ça compte vraiment dans les pertes. Bah ouais. Tu mets moi sur un 250 000, je suis complètement tétanisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sur un 250 000,
Toi, il y a un truc qui te tétanise dans la vie, toi. Pierre Scalamusa, il peut être tétanisé. Eh mec, t'es un héros pour moi, sache-le. Hein. Viens pas me dire que t'es tétanisé devant quoi que ce soit.
À 250K, je pense que je suis à la bulle, par exemple.
Il n'y a rien qui te faisait peur.
C'est le rêve de tout joueur pro, quand même, d'aller
frapper.
Ça veut pas dire que t'es pas tétanisé, même si.
Regarde, Alex Réard parlait de quand il allait jouer le 50 000. Et que deux jours avant, il arrivait presque plus à dormir et que qu'il avait une sorte de...
Quel tournoi t'as dit? Il avait joué Alex?
Alex, alors qu'il a gagné 400 000 dollars et que c'est un joueur qui a eu un succès énorme, qui a fait des énormes perfs, etc. Mais qui a pas fait une perf à être 5 millions ou 10 millions, etc. Et ben, il disait que 48 heures avant, donc il décide de s'inscrire aux 50 000, les deux jours qui précèdent, c'était très difficile pour simplement un 50 000. Donc imagine à 250 000, le fait d'avoir une énorme bankroll, aide forcément.
Toi, quand t'as fait le 25 000, par exemple, moi, au WSOP, d'ailleurs, bon, qui s'est mal passé, on connaît le résultat, mais comment tu t'es senti, par exemple? Parce que ça, tu l'as préparé, tu t'es préparé, tu t'es entraîné.
Ouais, j'avais peur, assez clairement, mais j'avais plus peur parce qu'il y avait TF1 qui me suivait depuis des semaines. Et du coup, j'ai failli basse première main, ce qui était quand même ce qui était quand même assez lourd. C'est-à-dire que tu les bassines avec ce tournoi depuis 6 mois, t'arrives une minute, t'as bust. Non mais imagine pour le grand public, comme c'est horrible, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est chaud.
Pour le reportage, c'est un peu T'as déjà eu ce sentiment, Benjamin, toi?
De trembler avant un tournoi.
Ça, quoi, l'idée que le tournoi est presque trop cher pour toi, ou
forcément, je pense que le.
Non, je parle pas de la table, mais pour moi, c'est pas le même stress. La table finale du main.
Non, t'as une adrénaline
financière qui te dépasse, quoi.
Non, c'est ce que t'as investi au départ qui te fait trembler. C'est pas la même chose que. Non, je pense que
c'est le delta financier par rapport à ta bankroll.
Ouais, voilà. C'est le risque que tu prends. Et en fait, dès que tu joues un tournoi qui est plus cher qu'à ton habitude, c'est une prise de risque. T'es dans une zone inconfortable, mais c'est à la fois excitant. C'est quelque chose qu'on recherche, et quand on y va, ben voilà, on saute dans le bain et. Pardon?
Non, justement.
Après, il faut pouvoir gérer émotionnellement prendre les décisions.
Avoir la bankroll, ça ne veut pas dire que tu vas bien jouer. Yo, il est dans une situation où maintenant il a la bankroll et il joue beaucoup mieux qu'avant. Je vois son style de jeu, c'est mûrement réfléchi et je suis limite impressionné par ce qu'il fait aujourd'hui et je suis heureux pour lui, quoi. Et il a la chance de surfer sur une vague, et de toute façon, le poker, c'est un jeu de confiance. Et de l'image que les gens perçoivent de toi. Donc, quand tu joues à 250 000, les gens vont te craindre un peu. Il a les moyens de jouer à
250 000. Le fait que tu sois allé jouer à 250 000, quand tu redescends dans d'autres tournois, les mecs se disent, lui, il a joué à 250 000, donc j'ai peur de lui.
Déjà, on l'a vu. Donc, les gens le connaissent. Donc, déjà, quand tu prends une décision, on te voit à dalle, on sait qui t'es, et ça joue dans les décisions.
Quel bankroll faut avoir pour jouer à 250 000?
Alors,
c'est qui les joueurs qui font ça? 250 000?
Tu vas plus raisonner en termes d'abrètes.
Ouais, ok. Ouais,
non, mais. Si tu joues que des 250 000, en théorie, il faudrait 25 millions, quoi.
Oui, non, mais ça, c'est. Il n'y a aucun joueur qui. Non, mais de temps en temps, tu fais les 250 000.
Je pense qu'il ne faut pas confondre entre l'adrénaline ou effectivement.
Mais il n'est pas stacké, Yo, quand il fait ça?
Non.
Non, justement. Ah ben c'est ça, ça.
Il se les paye tout seul, ouais, les 250
000. Full.
Ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça.
Full.
Satoshi, il le stack un peu.
Ah, Satoshi.
Ça a pu aider, ça a pu aider.
Satoshi, qui est un japonais, c'est ça?
Voilà. C'est qui a stacké beaucoup de joueurs.
Ah, ouais, d'accord, okay. D'accord. Ok, on va définir ça qui a stacké comme beaucoup de gens.
À Satoshi, non, mais ça aussi, ça, j'ai l'impression que c'est Usual Suspect, là. C'est Kaiser Soze, là. Il y a un mec qui a stacké, on sait pas qui c'est.
On peut sortir un pseudo, mon père.
Non, mais ça aussi, c'est très différent parce que sur les Super High Roller et les High Roller, tu vas avoir beaucoup de joueurs qui vont jouer 5 ou 10% de leur action, et d'autres joueurs qui vont au contraire garder 100%. Et c'est vrai que ça influe énormément sur la façon dont tu vas appréhender. Si par exemple, un joueur. Mais que 10% d'un main à 250 000, ça sera qu'un 25 000 pour lui, entre guillemets. Il sera beaucoup plus relâché qu'un joueur qui est soit qualifié sur un SAT, soit qui a mis full bankroll là-dessus, quoi. Donc,
C'est quoi ta zone de confort, toi? Ta frontière où tu passes dans l'inconfort?
25 000. 10 000, j'en joue plein, donc ça va. Et 25 000, ça commence à faire un peu plus cher, quoi.
Quasiment pareil.
Non. Non.
Non, mais honnêtement, après, non, mais 50, 100 000, après, ça fait longtemps que je les ai pas joués. Quand j'étais à fond, il y a 2-3 ans, je jouais à 100 000, et j'allais rebailler à 100 000 comme j'allais rebailler un croissant, quoi. Je me rappelle, non, mais c'est vrai, non, mais.
C'est beau. Enfin, ça nous met à l'aise,
hein, me dire
ça.
À Londres,
c'est beau, ça. Ça nous fait rêver.
J'ai joué à 100 000 pounds, je bust au bout de 2 heures, et en fait, ils te donnent une carte, qui est ta carte de membre, et tu peux aller rebail sans devoir sortir d'argent, juste parce que tu l'as crédité au préalable. Tu vas rebail juste en donnant ta carte, et tac, hop, en 30 secondes, t'as rebail 100 000 pounds. Tu te rends même pas compte de ce que tu viens de faire et tu te rassois à la table.
Tu me regardes, c'est pas moi.
Comme si t'avais rebail
Il me regarde.
J'essayais de trouver la limite pour nous, quoi.
Mais quoi?
Où on rebaille avec l'idée que c'est un croissant.
Mais t'as cette carte, tes pieds ils avancent pas, toi. Tu vas dire non, je vais laisser dans ma poche.
Ah, c'est juste que l'argent on le voit pas, en fait.
Ouais, exactement, bien sûr.
On s'en rend pas
compte. Alors je disais, Benjamin, que c'était une passe décisive, comme ça on va pouvoir entamer le thème. Effectivement, Jovira a beaucoup joué, a beaucoup gagné. Et il s'est peut-être détendu par rapport aux sommes engagées grâce à la crypto. Parce qu'il, lui, a été dedans. Et c'est là qu'on va en parler maintenant avec notre invité Julien Enrodias. Julien, tu gardes tous tes arguments, on est passionné, on est frais, on est chaud pour t'écouter.
Ah ouais,
il y a armé. La petite pub,
arrogant.
On revient dans 2 minutes et tu nous expliques tout. A tout de suite, les amis.
RMC Poker Show, Daniel Riolo et Mundir.
La deuxième partie du RMC Poker Show, on est là en studio avec Mundir, évidemment. Pierre Calamusa, de retour de Los Angeles, après évidemment le long séjour à Las Vegas. En studio avec nous également, Ça faisait longtemps qu'il n'était pas passé nous voir. Benjamin Pollack, on est ravis de son retour. Lui qui n'est pas allé à Las Vegas. Hein, finalement, on a su que c'était pour une bonne nouvelle.
T'avais
un très beau mot du médecin. Benjamin Pollack va être papa.
Je t'avoue, il y avait un petit faux mot quand même.
Je vous belle. Ah, magnifique.
C'est vrai.
Tu sais, c'est quoi le faux mot?
Non.
C'est le fear of missing out.
Ah, ben ça, d'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans l'univers de la crypto.
Exactement.
C'est fear of missing out, c'est quand tu vois le cours monter, t'as peur de rater le train, de rater une opportunité, et tu rentres au moment où finalement, c'est peut-être un peu tard, et ce qu'on appelle un FOMO.
Ouais. Mais ça existe aussi dans la vie de tous les jours, par exemple, s'il y a des gens, ils peuvent pas, tu leur dis, on sort ce soir, ils disent tout le temps oui, parce qu'ils se disent, c'est potentiellement la soirée de l'année, et du coup, ils le font, ils sortent à chaque fois.
Exactement.
Et ça traduit un peu un état d'esprit.
C'est quoi l'expression, tu dis?
FOMO. Le FOMO.
FOMO.
C'est un truc de jeune, laisse tomber.
Bon allez, on passe au dur de cette émission. On va se concentrer. J'allais dire Moundir non parce que toi t'es déjà un peu informé, mais avec Pierre on est un peu des novices. La crypto-monnaie. Julien Enrodias est avec nous. Tu es PDG fondateur de Descoin, plateforme d'achat.
Exactement.
Tu es tout jeune quand même.
Tout jeune, 25 ans.
25 ans, on a le droit d'être PDG déjà. Donc.
On a le droit, même bien plus tôt.
Pourquoi 25 ans PDG, on dirait.
Ah ouais.
Quoi. À 25 ans, tu faisais quoi toi? Moi, rien.
25 ans.
Moi, rien. Perso, rien.
J'allais dans les jardins, moi.
Moi, j'étais à l'école. Enfin, encore à la fac. Et j'étais pas brillantissime.
Ça fait plus de 4 ans qu'on est dedans déjà.
Ouf.
Ah ouais. Okay.
Bon, alors, il va falloir être fort pour vulgariser tout ça. D'abord, l'idée qu'on a eue de parler de crypto dans le RMC Poker Show, effectivement, ça peut surprendre comme ça ceux qui nous écoutent. Mais c'est parce que. On a noté, tu en parlais tout à l'heure dans l'introduction, des liens entre le poker, le monde du poker et la crypto. Par quoi veux-tu commencer si tu devais nous faire un petit exposé? Déjà, rapidement, la crypto et après le lien avec le poker?
On peut commencer comme ça.
Allez.
Mais en tout cas, j'ai déjà entendu plusieurs discussions là, sur les gestions de bankroll qui me rappellent énormément de choses et énormément de proximité avec la manière dont on doit aussi gérer des investissements crypto parce que c'est des choses qui sont volatiles. Donc, on va en reparler un petit peu après, mais... pour commencer, est-ce que je réexplique un petit peu ce qu'est la crypto-monnaie, ce qu'est le Bitcoin? En réalité, du coup, c'est un actif, c'est une monnaie virtuelle qui a été développée, on va dire, par un fameux Satoshi, justement, dans les années 2008-2009. En fait, ça s'est créé à la suite d'une crise financière.
La post-crise financière de 2008.
Les subprimes.
Exactement. Les subprimes. Mm-hmm. Et l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on n'a plus confiance dans ces institutions bancaires. Comment est-ce qu'on est capable de recréer un système financier qui est vraiment de pair à pair? Parce qu'en réalité, on se rend compte que...
L'idée était quasi un peu révolutionnaire.
Révolutionnaire et même... vraiment révolutionnaire. Et historiquement, ça a été développé par des cyberpunk.
Exactement.
Et en gros, c'est vraiment un mouvement...
C'était quasi Darknet, un peu
Initialement, les premières années, c'était du Darknet. Et en fait, au fur et à mesure de l'usage, forcément, c'est devenu un petit peu plus légal. Il y a de la réglementation qui est arrivée. Mais les idées de base, c'était des idées qui étaient en effet révolutionnaires, qui étaient à l'encontre du système actuel. Et après, forcément, ça a évolué. Il y a d'autres personnes qui sont accaparées, qui sont rendues compte de la force de la technologie. Mais la vraie idée, c'est qu'en fait, des monnaies virtuelles, depuis de nombreuses années qu'on essaye de créer cette monnaie virtuelle. Il y a des jeux vidéo qu'on utilise, et pour autant, on n'a pas cette force de frappe aujourd'hui, parce qu'en fait, la technologie sous-jacente, qui est la blockchain, elle n'avait pas encore la force technologique qu'elle a aujourd'hui. Et en fait, pour schématiser ça, aujourd'hui, on est très facilement capable de créer une monnaie virtuelle dans un jeu vidéo, mais comment est-ce qu'on est capable de créer une monnaie virtuelle qui est disponible dans le monde entier, en dehors d'un circuit fermé? Et c'est pour ça qu'aussi quand on joue au poker, on a des stacks, on a des jetons, mais ces jetons-là, en fait, ils ont la valeur dans le tournoi, mais si tu vas dans un autre casino, ils ont peut-être pas la même valeur. Et en fait, la technologie de la
blockchain... Ils ont la valeur que ça va avoir quand tu vas aller à la caisse pour l'échanger.
Exactement. Ouais. Mais je pense que si tu vas dans un autre casino, qui est un casino au Mexique,
il va plus rien
avec tes jetons, il va plus rien. Parce que t'es sorti du circuit. Et du coup,
l'idée, c'était que cette monnaie devienne de virtuelle à réelle, qu'elle finisse par valoir quelque chose pour tout le monde.
Exactement. Et en fait, la vraie difficulté qu'il y a eu, c'était la difficulté de la double dépense. Parce qu'en fait, c'est très facile de créer une crypto-monnaie. Mais comment est-ce que je prouve que si demain j'envoie 10 bitcoins à Moundir, je te le souhaite, tu puisses les recevoir? Ils ont bien été débités sur mon compte et ils ont bien été crédités sur son compte. Et la force de la blockchain, c'est que c'est quelque chose d'open source, donc c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut aller vérifier l'information sur la blockchain sans une entité, on va dire comme une banque ou comme un gouvernement qui servirait d'intermédiaire. Et donc le but, c'était la décentralisation.
Mais aujourd'hui, on peut pas payer en Bitcoin.
On peut. On peut payer en Bitcoin.
Il y a des endroits. Aux États-Unis, tu peux.
En France aussi.
En France, ah ouais.
Et en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de cartes bancaires qui, au moment en fait du paiement, utilisent ton solde crypto pour faire des achats en crypto.
Pourtant,
il y avait même des bars qui te proposaient de payer en Bitcoin ou.
Avec les banques, j'ai vérifié. Actuellement, il n'y a pas trop d'accord avec les banques sur, enfin en tout cas en forme, moi j'en ai, ouais. On va prendre les banques les plus connues, la Bred, ouais. la Bred, BNP et compagnie. Actuellement, ils ont absolument pas de, il y a pas d'accord avec, tu vois, donc pour le.
Mais
coup,
en fait, t'as des accords avec Visa et Mastercard. Okay. Et en fait, c'est des plateformes de crypto-monnaies qui utilisent le réseau Visa Mastercard pour créer des portefeuilles.
Mais avant, ça doit passer par un change.
Oui.
Avant, ouais. Il faut changer.
En fait, il y a deux méthodes. C'est soit on passe par la carte bancaire qui, du coup, repasse forcément par du fiat. Et dans ce cas-là, tu utilises tes crypto-monnaies, mais en fait, au moment où tu payes le commerçant, tu le payes en euros. Ou il y a une deuxième possibilité, on va dire, qui est de passer directement la crypto. Si demain, je t'envoie, je sais pas, 100 $ USDT, mais en fait, on passe directement en direct. Il n'y a même pas une institution bancaire qui peut nous dire, cette personne-là, c'est pas possible qu'elle envoie à telle personne.
Explique à Daniel que fiat, l'argent va pas dans une bagnole. Tu vois, c'est
monnaie fiduciaire, euro, dollar.
Alors, quand, je sais pas à quel moment, la légende voudrait, en fait, ça me plaît comme ça, que les joueurs de poker se soient intéressés très tôt à ça. Plutôt que d'autres gens normaux, on va dire. Benjamin, à quel moment toi t'as commencé à t'intéresser à ça et quels sont les autres joueurs? Moi, j'ai l'impression que dès après 2010, par là, je commençais à en entendre parler.
C'est plus ou moins à ce moment-là. Enfin, en 2013, j'ai commencé à en entendre parler. J'ai failli en acheter à ce moment-là et ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était pas facile d'en acquérir. Il n'y avait pas des sites d'échange centralisés qui en proposaient.
Et toi, de prime abord, ça te fait pas peur? Parce que moi, la première fois qu'on m'en parle, je lui dis que c'est que ce truc-là, c'est bidon. Je vais filer 10 000 à un gars, il va me filer un truc en échange, mais ça vaut peut-être rien du tout.
En fait, c'est à la valeur que les gens s'accordent à dire. Si on s'accorde à dire que ça vaut 100 euros, ça vaut 100 euros. C'est comme un billet de 50 euros. On sait que ça vaut 50 euros parce que l'État.
Mais c'est de l'offre et de la demande. Le cours du Bitcoin?
Pardon?
Le cours du Bitcoin, c'est de l'offre et de la demande?
Exactement.
Et
bien sûr. En fait, c'est pas un marché régulé. Les acteurs le sont de plus en plus, mais le marché n'est pas régulé. Et en fait, la vraie différence aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie, mais le vrai terme juridique aujourd'hui en France, c'est un actif numérique. C'est pas une valeur de monnaie.
Et le nombre de Bitcoin dans le monde entier est fixe?
Exactement. C'est à 21 millions, mais en fait, chaque crypto-monnaie va définir ses propres règles. C'est-à-dire que le Bitcoin peut avoir 21 millions, comme une autre crypto-monnaie peut dire, en fait, j'en ai 92 millions ou j'en ai 10.
Et ça, et du coup, ils déterminent ça selon le volume des flux qu'ils vont estimer ou
non,
c'est complètement arbitraire.
Ouais, c'est arbitraire. Alors, on parle de token économique, c'est la plupart du temps, c'est réfléchi parce qu'on a des caractères qui peuvent être déflationnistes ou inflationnistes. Ça dépend vraiment de la portée de chacun. Mais par exemple, quand on regarde aujourd'hui le Bitcoin, il a vraiment cette fonction de réserve de valeur parce qu'en fait, on a une quantité limitée. Et c'est vraiment par opposition à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde traditionnel et le monde financier où en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a du quantitative easing, on imprime sans cesse de l'argent. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, enfin, moi j'ai du mal à le conceptualiser, comment est-ce qu'on peut me dire qu'on a imprimé 10 milliards d'euros de plus cette année, que l'euro que j'ai sur mon compte bancaire vaut la même chose alors qu'il y en a 10 000 de plus? Et c'est ça qui est à l'encontre avec le Bitcoin, où quand on a une monnaie qui est fixée, on va dire, en termes de quantité de tokens, on a aussi ce côté réserve de valeur.
Ouais, c'est un lingot d'or virtuel, en fait.
Exact. En tout cas, je l'assimile souvent, et ça, c'est un.
Oui, le Bitcoin, moi aussi, quand on me dit ça vaut 40 000, j'ai l'impression que j'ai un bloc chez moi, ça vaut 40 000.
C'est surtout qu'il y a tellement de choses qui se sont développées autour et c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'après, ils ont enchaîné avec le NFT. J'ai même, en faisant des recherches, dites-vous bien, les gars, que même dans le porno, ils ont fait du NFT.
Ouais. Rare porn.
Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les gars achètent.
Là, ça m'intéresse.
Excuse-moi. des coffres à butt. Excuse-moi de parler comme ça, tu vois. Et en fait, il y a le mec qui met une tonne d'oseille pour voir une carte avec une meuf à Walp, tu vois. Et finalement.
Ouais, pareil avec les vignettes de joueurs de foot, là, Sorare, là.
Ouais.
Moi, j'ai toujours pas compris la valeur que ça pouvait avoir.
Et puis, c'est pas comme les cartes Panini, au final.
Ouais, ok, mais sauf que là, pourquoi ça a des valeurs aussi importantes?
Mais là, il y a une valeur d'entertaining dans Sorare. C'est que tu joues au foot, tu vas regarder ton joueur, etc. Là, c'est le Bitcoin, par exemple. Moi, ce que je comprends, c'est une pure réserve de valeur. C'est-à-dire que tu investis là-dedans en disant c'est un truc secure et comment dire, et puis et c'est aussi
secure. Beaucoup... Non, t'investis, mais tu sais pas si.
En espérant, c'est comme quand t'achètes de l'or, c'est t'espères soit que ça soit plus solide que la monnaie dont tu disposes, par exemple les euros, soit que ça va prendre de la valeur via de la spéculation.
Tout à fait.
Ouais, spéculation. Je sais qu'NFT, c'est spéculation.
Quand est-ce que t'achètes de l'or? C'est quand t'as plus confiance en ta monnaie de ton état, par exemple. S'il y a beaucoup d'inflation, par exemple. C'est là où les valeurs refuges prennent.
Et j'aime bien quand on prend aussi les différents points de vue. C'est qu'on dit que le Bitcoin est volatile. Mais si on part en 2070, on a du Bitcoin et tout d'un coup, on a envie d'acheter de l'euro. Et quand on regarde l'euro, ben on aura l'impression que l'euro est volatile. Mm-hmm. Avec un euro, on va pouvoir acheter 40 000 euros, un jour 60 000 euros, et on va dire, mais c'est quoi cette monnaie qui...
Un bitcoin, ouais.
Voilà. C'est quoi cette monnaie volatile? En fait, ça dépend de ton point de vue. Mm. C'est le rapport entre les deux. Il y a beaucoup de spéculation aujourd'hui.
Ah ouais, le bitcoin, en fait, c'est ça. C'est sans arrêt, on n'arrête pas de dire, ça va monter, ça va atteindre des sommets. Mais donc, ceux qui en ont, ils sont quoi, en fait? Ils sont juste des spéculateurs qui attendent que ça atteigne un chiffre immense pour le revendre.
Alors,
quoi, ça va s'écrouler d'un coup?
En fait, ça dépend si tu as envie de le revendre. Si tu le revends, c'est que tu crois à la monnaie dans laquelle on évolue. Et c'est tout ce
concept. Si tu crois à la monnaie dans laquelle on évolue, à l'euro.
À l'euro et au dollar, et au système en général.
Toute ma réflexion, effectivement, elle est basée sur l'euro et éventuellement le dollar.
Voilà.
Donc, si
je prends un bitcoin demain, je sais pas, il est à 40 000 là ?
30 un peu plus.
Bon, Mundia, il me fait cadeau d'un bitcoin qui est à 45 là.
C'est logique.
Moi, s'il atteint dans deux mois 100 000, j'ai l'impression que je vais vite le vendre, quoi.
Ok, c'est des stratégies, c'est jouer en fait sur la volatilité, mais c'est pas vraiment incorporer le système de la crypto-monnaie. Le but, moi, quand j'en ai acheté, j'ai commencé en 2017. Je n'ai fait que rentrer. Je suis jamais sorti.
Combien était le bitcoin à ce moment-là?
À ce moment-là, c'était entre 3 000 et 18 000. Ça allait très très vite à ce moment-là.
Ça dépend si c'était le début d'année ou fin d'année.
Alors, je suis rentré au milieu fin. Ouais. Donc, j'ai subi la.
Tu t'es gagoulé, hein? Début, à une époque, t'étais pas bien.
Au début, il était comme ça. Il était, il jouait 300 euros à un moment. Il jouait la cup. Hein.
C'est intéressant. Comment tu t'es cagoulé? Parce que ça, c'est intéressant.
Parce que au début, au plus bas, dans ce que j'avais investi, j'avais perdu plus de 75% en valo. Mais en fait, ça me faisait rien dans le sens où j'avais mon nombre de bitcoin et en fait, j'y croyais sur le long terme. Et j'ai fait que racheter. Parce qu'en fait, dès que j'avais des euros, de la liquidité dont je me servais pas, je préférais avoir de la crypto-monnaie et miser sur un avenir dans lequel je croyais. Que garder des euros et rester dans
ce qui te permettait d'y croire.
Le concept, en fait, c'est juste et le fait de pouvoir échanger de la monnaie en pair-to-pair, de pas avoir besoin de ces banques et de ce système que j'ai toujours.
Ils sont chiants.
Voilà, c'est un système archaïque et je vous assure que dans 50 ans, 100 ans, nos petits-enfants, ils vont regarder, ils vont dire, mais les banques,
il y aura plus de cash.
On les verra dans des musées, on en parlera dans les bouquins d'histoire. Parce que c'est un système.
Je suis complètement largué, moi.
Mais en fait,
tu n'arrives pas à imaginer que dans 50 ans, on regardera les banques comme ça. Oui, parce que tu veux dire, on payera tout en virtuel, en monnaie.
Mais c'est pas du virtuel, c'est une monnaie d'échange, en fait.
Oui, tu veux dire, il n'y aura plus de liquidité.
C'est très, très liquide.
Non, il n'y aura plus de. Comment on dit ? Voilà, espèces,
ouais.
Ça, c'est sûr.
Physique qui est, tout ça.
Ça, ça fait chier. J'aimais bien les liasses et tout. Putain.
C'est juste pour fumer, ça.
Et non, mais aussi.
Oui, les liasses sur la table, c'est beau.
Non, mais et aussi, c'est quand même un certain gage de liberté aussi, les billets, le liquide quand même, parce que ça fait peur quand même parce que ça fait peur de plus pouvoir payer en cash, c'est-à-dire que tu es tracé tout le temps par des transactions qui sont sur internet, ça c'est flippant, quoi.
Après les transactions et le principe, c'est que ça reste quand même anonyme, je veux dire, derrière c'est ouvert à tout le monde, mais on sait pas enfin.
Mais alors, pour par exemple, je vais prendre un exemple pour les impôts. Non, alors je te parle pas sur le Bitcoin, mais je te parle si toutes les interactions deviennent anonymes, comment est-ce que tu pourras déterminer quel est le patrimoine de qui,
Si, parce que le Bitcoin ou la crypto est taxé.
Comment est-ce qu'à un moment donné, les États vont pas te taper du poing sur la table en disant on veut garder le contrôle sur les flux financiers, quoi.
Tu l'as toujours aujourd'hui. Enfin, la plus-value que tu fais en crypto, elle est imposée à la flat tax, donc elle est à 30%. Mais ce qui veut dire que
oui, tu veux dire que dans l'exemple dont je parlais tout à l'heure, 40 000, quand il atteint 100 000, je le revends sur le.
Ça fait une plus-value de 60 000.
Les 60 000, 30% aux impôts.
Exactement. 20 000 aux impôts, voilà.
Ce qui est standard.
Non, non, mais ce qui est sur les actions,
c'est ça que je ne vends pas.
Et voilà. Et ça, c'est la deuxième remarque, c'est que, en fait, on est imposé uniquement au moment où on vend. Donc, en fait, toutes les actions qu'il a fait pour racheter, au final, il n'a jamais été imposé. C'est à la sortie, on fait la plus-value et on voit ce qui s'est passé.
Pardonne-moi, Julien. Vas-y, excuse-moi, fini, parce que tu.
En fait, c'était juste pour respécifier peut-être plus pour contextualiser. Nous, ça nous paraît aberrant d'avoir cette crypto-monnaie qui est hyper spéculative, mais il faut aussi prendre du recul, c'est que c'est une monnaie qui a été créée, on va dire, avec une force qui est au-delà de la France. C'est dans d'autres pays. Et quand on voit aujourd'hui des pays en Amérique du Sud, du Salvador, de l'Argentine, qui ont des monnaies qui sont hyper inflationnistes, où aujourd'hui, je gagne l'équivalent de 1000 euros, le lendemain, ça vaut plus 1000 euros, mais ça vaut 500 euros, mais comment est-ce que je trouve une réserve de valeur qui me permet de demain de pouvoir acheter l'équivalent de 1000 euros? Et c'est ce qu'on a énormément en fait en Amérique du Sud, c'est des personnes qui convertissent leur paie du jour en bitcoin, parce que le bitcoin qu'on a en Argentine, c'est le bitcoin qu'on a en France.
Et aussi, excuse-moi, mais par rapport au... par exemple, je sais pas, au flux illicite comme de l'argent, enfin l'argent sale, par exemple l'argent à drogue, est-ce que ça le facilite ou est-ce que au contraire ça freine ces flux-là?
Alors, comme tu veux. Enfin, moi
non, je... vas-y, tu peux, dis-le.
Moi, je suis là pour casser les a priori.
Justement. Alors, vas-y, je te laisse parce que j'en ai quelques-uns.
Mais en gros, là, bah, tu vois, on parlait de cash. Le cash, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de rendre ça intraçable plutôt que du Bitcoin, si tu veux.
Complètement.
Et donc, c'est aussi pour ça que, on va dire, le système bancaire actuellement essaye de mettre un petit peu les yeux noirs sur la crypto-monnaie en disant, en passant par la crypto-monnaie, vous favorisez le blanchiment d'argent, le financement terrorisme, etc. La réalité des choses, c'est que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est moins de 0,5% de blanchiment d'argent sur la totalité des transactions dans la crypto-monnaie. Là où je crois que le nombre de transactions et le nombre de milliards d'euros qui ont été blanchis dans le système traditionnel actuel, il est démesuré par rapport à ce que...
Plus que 0,5% des transactions Non, c'est pas possible, ça.
En France, il y a... pas en France, mais dans le système monétaire mondial, il y a plus que 0,5%.
Surtout sur le marché de l'or.
Ouais.
L'or, entre le Pérou et Miami, ça a été un moment, pendant des années... du blanchiment, enfin, je me rappelle.
À l'époque de Escobar et compagnie.
Exactement. Ouais.
Et en fait, la seule différence, c'est aujourd'hui, du coup, il y a des régulateurs qui sont arrivés. Enfin, quand on a commencé, on était sur un milieu qui était absolument pas régulé. En 2019, il y a la loi Pacte qui est sortie, qui instaure justement le fait d'avoir des acteurs régulés quand tu exerces en France. Et en gros, avant ça, tout le monde pouvait opérer. On ne demandait pas forcément une pièce d'identité comme on le demandait en banque. Aujourd'hui, maintenant, on est soumis à cette réglementation de la LCBFT. Et c'est bien plus poussé que ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Et ce qui limite aussi le financement de terrorisme.
Bon, alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Bah, achète.
C'est encore l'heure ou c'est trop tard maintenant ?
Ça, c'est toujours la question compliquée, mais en fait, il existe.
Parce que là, moi, avant que les États du monde entier tapent du poing sur la table en disant bon, on arrête les conneries maintenant avec vos monnaies à la con, la parallèle, là, maintenant, on revient à du sérieux.
Mais ce qui est fort, en fait, c'est qu'il y a. Il n'y a personne, il n'y a pas un État qui peut arrêter cette crypto-monnaie. C'est décentralisé.
Alors, justement, par rapport à ça, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une démocratisation de cette monnaie virtuelle où on entend, je crois qu'il y a du Deuterium.
Deuterium.
Enfin, il y a énormément de choses. J'ai vu même des candidats de télé-réalité vendre de la crypto-monnaie. Alors, c'est comme, à rigueur, excusez-moi de parler comme ça, c'est comme si tu lâchais un pédophile dans une maternelle, quoi. Tu vois, le truc, c'est, je trouve, pourquoi vous, il n'y a pas une régularisation de, c'est-à-dire qu'au moment où vous tapez du poing, où vous dites, OK, nous, on est, une grosse structure, on veut, sécuriser tout ça, on veut pas que n'importe qui puisse parler sur justement la crypto-monnaie ou le machin, parce que il y a énormément de cadavres.
Ah, mais, et pour te dire, tous ces influenceurs, et même récemment dans le foot, je crois que c'était, je sais pas si c'était Xavi ou Iniesta qui en avait parlé, de crypto-monnaie, s'est fait taper par le régulateur espagnol. En France, Nabila s'est fait taper par le régulateur. En gros, ils sont toujours fait retaper
après. Nabila, crypto-monnaie, d'un coup, ça peut décrédibiliser totalement le produit, là.
Ça nous a plus desservi que ça nous a servi, hein, parce que c'est certes.
Mais qui l'a payé pour parler de ça?
Bah, c'est une plateforme à la con. Excuse-moi de parler comme ça. Une plateforme à la con qui est venue. Eux, ils ont pas cherché à savoir qui elle était. Ils ont vu qu'il y avait des millions de followers qui la suivaient. Ils ont dit, vas-y, tiens, on te donne 20K. Et puis, dis, avec ça, tu peux faire fortune. C'est-à-dire qu'il y a même pas, de.
Remarque, c'est génial. Allô, on est en 2021 et t'as toujours pas de Bitcoin. Ça marche bien.
C'est vrai. Et après, c'est d'où l'enjeu de la régulation pour essayer de limiter tout ça.
Parce que vous n'avez pas d'ambassadeur. Il n'y a pas comme, tu vois, les banques, ils ont des ambassadeurs. Tu vois, le poker, ils ont des ambassadeurs. Vous n'avez pas un ambassadeur de crypto qui représente.
Moi, je veux bien être votre ambassadeur.
J'étais sûr. Tu vois, je l'ai lancé là-dessus. Tu vois.
Je pense que les gens, ils sont justement, comme le fait que ce soit un peu anonyme, c'est une qualité. Je pense que les gens, ils veulent pas.
Mais pourquoi pas ça rassurerait. Se mettre en avant. Non, mais ça rassurerait.
C'est la blockchain en fait qui rassure. C'est le code en lui-même qui fait la loi, qui est la loi du Bitcoin. Donc, si t'as confiance en cette technologie, que tu comprends vraiment ce que c'est,
aujourd'hui les gens veulent rêver. Quand les gens entendent Bitcoin, crypto-monnaie, il y a même des casinos, j'ai vu en ligne.
Ils rêvent, mais en même temps ils flippent.
Mais ils rêvent
et ils flippent.
On leur parle de Bitcoin, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas où acheter, ils savent pas comment on fait
d'ailleurs pour acheter. D'ailleurs.
Chez Descoin.
Concrètement, comment ça se passe? Je vais me chauffer à acheter un Bitcoin, je pense.
Bon, écoute, là, en sortant de l'émission, tu fais les 40 000 balles, tu lui vends un Descoin.
Comment ça se passe? Est-ce que tu peux.
Il apparaît où chez lui?
Je peux expliquer le process et même recontextualiser un petit peu, parce que les acteurs. En fait, aujourd'hui, il y a deux méthodologies pour acheter, même, je dirais peut-être trois. Il y a des sites qui existent où tu peux faire directement de l'échange de pair à pair. Je crois que de souvenir, ça devait être Local Bitcoin. En gros, c'est comme si je te contactais et demain, je te disais, moi, j'ai un Bitcoin, t'as du cash, on échange en fiat. Un peu comme Le Bon Coin sur la crypto. Ce qui est le principe, parce que du coup, tu passes pas par un intermédiaire.
C'est dans le coffre.
Ça peut être dangereux aussi.
Le mec te scam, quoi.
C'est comme si t'arrives avec une voiture et tu dis, paye-moi en cash et le mec, il vient avec un flingue. Enfin, c'est, C'est un peu le stéréotype. Et après, il y a deux autres types de plateformes. C'est soit on a des exchanges, soit on a des brokers. Donc en gros, c'est les exchanges, c'est les sources de liquidité. Donc c'est comme si on allait sur le Euronext pour acheter des actions. Et de l'autre côté, on a des brokers qui, de la part du client, il y a un besoin, va m'acheter l'action Tesla.
L'offre et la demande, tu les réunis sur ta plateforme.
Il paraît que Tesla, on peut les payer en Bitcoin, les bagnoles.
Ouais. Enfin, ils avaient fait une annonce là-dessus. Justement, Tesla, ce qui a réellement changé, pourquoi les gens en parlent de plus en plus, c'est qu'en dehors de cette petite bulle où à l'époque on se disait mais c'est que des crypto geeks ou que des gamblers justement dans le poker qui y sont, il y a des grosses sociétés, il y a des fonds d'investissement qui sont lancés dedans et qui aujourd'hui ont trouvé ça utile d'avoir ça dans leur trésorerie d'entreprise. Donc on est vraiment passé à un cap qui est c'est pas seulement un jouet, c'est vraiment un actif financier qui est nécessaire.
Toi, tu imagines que ça peut monter à combien le Bitcoin?
Moi, j'ai vraiment pas de prédiction là-dessus. Je sais juste qu'aujourd'hui, enfin, quand on parlait tout à l'heure de se dire qu'il y a une grande partie qui est en banque, une autre partie, on peut diversifier en portefeuille dans la crypto-monnaie. J'ai peut-être 90% dans la crypto-monnaie et j'ai peut-être que 10% en fiat, donc en euros.
Quelle est la commission que tu prends par transaction? C'est juste pour savoir. Et aussi, en fait, là où je comprends pas, c'est qui a intérêt. Alors, si tu achètes du Bitcoin, c'est que tu crois en la technologie et tu crois que c'est quelque chose qui va se développer et qui va prendre de la valeur. Alors, pourquoi est-ce que des gens vendent?
Parce qu'il y a aussi des spéculateurs, il y a des traders
qui pensent qu'on est au-dessus, la courbe va descendre et qu'on est
Et en fait, on revient un peu comme sur des marchés financiers traditionnels. C'est aujourd'hui, pourquoi est-ce que Tesla ça fait que monter et les gens descendent pas? C'est parce qu'ils croient à fond dans le projet que ça va continuer et que c'est Tesla qui va révolutionner le monde de l'industrie de l'automobile. Et il y a quand même des traders qui se disent ok, la valeur du cours elle est beaucoup trop élevée, je vends. Et la plupart du temps, les marchés, celles qui vendent, on appelle ça des whales dans la crypto, c'est des grosses positions d'institutionnels qui vendent et qui shortent les marchés. Et il y a beaucoup de problèmes, c'est pour ça que c'est volatile. C'est qu'il y a des grosses positions de long ou de short, sans rentrer trop techniquement, mais qui parient à la hausse ou qui parient à la baisse. Et il suffit que le marché il ait fait une position inverse. En fait, il y a tout qui dégringole. Parce que on est encore sur un marché qui est jeune. Faut se dire que la technologie, elle a pas plus d'une dizaine d'années. Les capitaux, ils rentrent seulement depuis, je dirais, 2-3 ans sur le marché. Donc, ce qui veut dire qu'on est quand même sur des faibles valorisations, des faibles capitalisations. Et aujourd'hui, on parle de Bitcoin où je crois que c'est plus de 1000 milliards de capitalisation, donc de personnes qui ont déjà investi, qui détiennent cette valeur. Mais on a aussi des crypto-monnaies où il y a peut-être une valorisation à 100 000 euros. Et donc, si demain j'ai 50 000 euros de cette crypto-monnaie, je vends tout, il y a le cours qui drop de 50%.
Il y a que cette monnaie sur laquelle on peut investir, par exemple, pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux conseiller?
Il y en a plein maintenant des crypto-monnaies.
Celles qui sont safe déjà. Ouais. Enfin, quand je dis safe, c'est ça. Celles qui sont sûres.
En réalité, il y en a.
Le Mario Bros ou un truc comme ça, un nom à la con.
Ouais, mais moins elles sont sûres, plus tu peux espérer aussi des rendements élevés si tu paries sur le bon cheval. Quoi.
Donc, la plupart du temps, c'est lié, mais il existe plus de 8-10 000 crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui se créent tous les jours. Nous, du coup, sur notre plateforme, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait une présélection, au moins des crypto-monnaies qui ont une valorisation suffisante pour se dire si demain j'ai besoin de sortir parce que j'ai investi peut-être 10 000 euros, mais 10 000 euros, demain j'ai un autre projet, j'ai un enfant qui vient justement, ou j'ai une maison, j'ai envie d'acheter. Dans ce cas-là, l'intérêt de la crypto-monnaie, c'est que c'est aussi liquide. C'est-à-dire que je peux le ressortir demain, c'est pas de l'immobilier où tu vas mettre 6 mois, 1 an à revendre ton bien. Demain, si j'ai besoin de cet argent, je peux le redescendre en
combien de temps vous payez?
En 24 à 72 heures. En fait, le seul délai qu'on a, c'est le délai bancaire, qui est lent. Et sinon, voilà, après, nous, on a une sélection.
Si tu me dis que ça atteint 100 000 dans pas longtemps, là, je réfléchis.
Alors, je m'y engagerai jamais. Personnellement, je peux avoir cette conviction, mais en tout cas, je peux pas te le garantir.
T'imagines si tu le garantis, c'est magnifique, tu mets tous tes sous.
En fait, moi, j'ai pas une vision pour faire en fait une plus-value en euros. J'ai plus une position. J'achète du Bitcoin pour augmenter mon pouvoir d'achat dans plusieurs années. J'ai l'ambition de croire qu'on pourra acheter une baguette de pain en Bitcoin, qu'on pourra acheter une maison en Bitcoin. Et donc aujourd'hui, avec un Bitcoin, tu peux acheter une belle Tesla. Je tends à croire que dans plusieurs dizaines d'années, on pourra acheter une maison avec. Donc du coup, en fait, t'augmentes ton pouvoir d'achat. Tu gardes le Bitcoin et le but, c'est de le garder. Et avec le temps, vu parce que c'est déflationniste, le Bitcoin, tu augmentes ton pouvoir d'achat.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais conseiller, par exemple, d'investir, on dit on prend 10 000 balles, d'accord, et on investit sur toute cette nouvelle crypto-monnaie qui aujourd'hui, vaut 100 balles, 200 balles, je ne parle pas bien sûr du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, est-ce que ça serait rentable?
Ça peut l'être, mais ça dépend encore du profil de l'investisseur. Et on revient sur, même avec le poker, sur les bankrolls. C'est en fait, si j'ai 100 000 euros disponibles, je vais peut-être tenter des petits tournois à 2-3 000 avec des gros cash derrière. Oui.
Ouais, c'est bien.
Mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est déjà agressif.
bien arrogant.
Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu es capable de sélectionner un portefeuille en fonction de ce que le client veut. Si ton client, en fait, il voit ça vraiment comme du gambling, demain, j'ai envie de m'éclater, je suis prêt à perdre les 5 000 sur les 10 000 que j'ai mis. bah vas-y, on va partir sur des tokens qui ont des faibles capitalisations, qui sont des projets très prometteurs, mais qui demain peuvent descendre de 40%. Et à l'inverse, si on a un client qui nous dit, bah, je veux juste diversifier mon portefeuille, je vois que mon livret A, il m'aurait pour 0,5%, que mon taux d'inflation à l'année, il était de 2,9%. En fait, j'ai perdu 2,4% de mon pouvoir d'achat, justement, cette année. Donc, on cherche forcément des solutions à, en dehors de l'investissement et de maximiser ses gains, c'est comment est-ce que j'en perds pas aujourd'hui? Parce que le taux d'inflation, il est quand même relativement élevé. Ça, c'est on va dire un concept que les gens ont du mal à assimiler. Mais cette année, les gens ont perdu presque 2% de son pouvoir d'achat.
Il n'y a pas eu 7% d'inflation cette année
aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, en France, je crois qu'on est à 2,9%. Et ce n'est pas en le mettant sur le livret A qu'on a sauvé notre sauvegarde.
Ah bah non, il n'y a aucun placement. Vu ce que ça rapporte, les placements en ce moment.
T'as une petite question, mon Daniel. Ouais. C'est taxé à combien aux États-Unis? Si en France, c'est 30%?
J'en ai aucune idée, mais par contre, ça dépend de chaque législation. Je sais qu'au Portugal, par exemple, c'est
0%. C'est l'embellie.
Et en fait, chaque pays va définir sa propre.
Il vaut mieux l'acheter et la revendre dans certains pays.
Ah ouais.
Suivant où tu es fiscalement, il y a des personnes qui sont parties justement parce qu'en termes de fiscalité, c'était plus intéressant à l'étranger.
Ouais, dans le poker, il y en a 2-3 ouais, qui ont échappé.
Mais je veux dire, c'est les mêmes raisonnements que tu as quand tu descends des dividendes ou quand tu fais de l'action en bourse. C'est comment est-ce que je maximise mes gains? Enfin, la fiscalité crypto, elle n'est pas dédiée à la crypto aujourd'hui. On a la flat tax en France, c'est la même flat tax qu'on a sur les actions.
Bon, eh bien, je ne sais pas si ça nous a convaincus d'y aller. Hein, vous me direz, bah, toi, tu y es déjà. Bah, on a déjà deux, toi.
Nous, il faut qu'on teste.
Benjamin, t'en as beaucoup, toi?
C'est quoi cette question?
C'est quoi, il est dedans.
Tu sais, les questions ne sont pas indiscrètes, c'est les réponses qui peuvent l'être éventuellement. Donc, tu me dis, range ta question, je range la question.
Hein. Non, j'en ai parce que j'y crois. Après, le montant, tout est relatif, de toute façon.
Ouais, zéro est un chiffre.
Mais pour moi, aujourd'hui, c'est plus risqué de ne pas en avoir que d'en avoir.
Non, bah justement. Bah,
c'est plus risqué de ne pas en avoir?
Ouais.
Alors, Julien,
à 4 à 5 ans. Enfin, je ne peux pas m'engager, mais je veux dire, à 4 à 5 ans, j'ai la même conviction que toi. C'est un actif qui est essentiel. Même si on en a 5, 10% de son portefeuille, c'est plus dangereux que.
Non, on pensait que tu allais ramener au moins 2 bitcoins parce que la dernière fois on a reçu.
Tu allais mettre là sur la table.
C'est vrai, c'est Greg Chauchon, il avait un t-shirt WSOP.
Exactement, parce que la dernière fois on a reçu le champion du monde de Monopoly. Bon, il a ramené 3 boîtes. Les 3 boîtes, il les a pris, tu vois, Daniel. Là, on pensait que tu allais venir avec 3 bitcoins. Ah, tu vois, même
en quoi, tu vois. Bitcoin chacun.
Histoire de dire, ah, ben bah, c'est comme ça et tout, machin. Bon, écoute, on partagera moitié-moitié, Daniel.
Très bien. Bon, allez, on marque une pause. Et on revient pour la troisième partie.
Boum !
On va jouer un peu au poker.
Eh oui.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
La troisième partie du RMC Poker Show avec Moundir, bien sûr, Pierre Calamusa, Benjamin Pollack et Julien Enrodias. On vient de prendre une leçon de crypto-monnaie.
Ah ouais, ça fait rêver des gens,
je vous le dis. Qu'on fera avec cette leçon.
On va en parler après.
Hein, je ne sais pas si, en tant que joueur de poker, nous prendrons des risques.
Ah bah.
Mesurés, comme tout bon joueur de poker.
L'une des premières cryptos que j'avais investi, c'était CoinPoker. Hein. C'était en fait un site de poker qui se basait sur la blockchain. Et en fait, on a beaucoup de problématiques d'un œil extérieur sur les casinos où en mode, comment est-ce qu'on peut régler le problème de transparence? Parce que des fois, on se demande, est-ce que c'est pas louche ou quoi que ce soit? Mais en fait, en le basant sur la blockchain, on était capable de se rendre compte que le tirage des cartes était vraiment aléatoire et tout le monde pouvait le voir. C'était une des forces.
Et c'est devenu quoi, CoinPoker?
Ça a fermé.
j'en ai aucune idée, je le suis plus du tout.
Personne n'en a entendu parler depuis plus de 20 ans. Il a lancé Virtue Poker aussi basé sur la blockchain et sur la crypto-monnaie.
Allez. Ça a zéro aussi.
Bah, ça se lance là, cette semaine.
Lui, il lance des trucs tous les 5 ans.
Pas chez
après, il arrête. Et après, il y a aussi beaucoup de plateformes qui ne parlent pas de crypto-monnaie et qui utilisent la blockchain derrière. Ça dépend.
Bon, Jérémy, ça va?
Bonsoir, messieurs, ça va?
Salut, Jérémy.
Ah, ben là, il est en crypto. Je préfère jouer au poker.
C'est pointu, là, je veux dire.
Je pense à l'agrandissement de la maison.
Mais justement, c'est la crypto qui te le permettra.
Faut convaincre sa femme d'abord.
Bon, au prix là, t'achètes le lac en face de chez toi.
Non, mais j'ai un peu de sous de côté, mais de là à lui dire, je vais mettre 80 000 dans le.
Non, mais justement.
Je suis pas sûr. C'est ça le vrai problème.
Ouais, mais tu lui dis, comme ça, si jamais elle dit non et que ça monte, tu lui feras, bah tiens, chais. Voilà,
chais. Et tu perds tout.
Ah, ben là,
c'est pas
ça. Tu le fais pas.
Hein?
Tu le fais pas.
Mais c'est encore une
question. Après, tu peux lui dire, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi si on est pauvre.
Bitcoin, ça, il a pris un coup de soleil. Ça.
Mais très chaud en régie.
Allez, va. Tu rajoutes la Bitcoin.
Bon, allez, non, on y va dans la tête d'un fiche.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
On a deux profs pour le prix d'un. Alors.
Ah, c'est magnifique. Ben
Messieurs, tu vas jouer avec nous, non?
Tu joues un peu au poker, non?
Pas à votre niveau, je pense.
Ouais, c'est pas grave. Non, t'inquiète, c'est dans la tête d'un fiche, ça s'appelle.
On parie un quart de bitcoin.
Pas dans la tête d'un pro, il y en a deux des pros.
Je vais jouer le piche.
Ils sont là pour nous
corriger. Messieurs, ce soir, on s'envole pour le soleil des Bahamas. On est déjà assuré d'être riche puisqu'on est en heads-up du
Air Bahamas, Roller. D'ailleurs, là, il y a le tournoi cette année?
Non, il n'y a plus rien.
Il y a Prague en janvier, ça, en général.
Prague en mars.
Et voilà.
Ouais, bah on n'a pas dit en l'actu, effectivement, Emily Prague, ce sera en mars. Hein.
Non, il est en mars.
Ah, il est en mars.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'était dans l'actu, reprogrammé en mars, du 5 au 16 précisément. Et puis dans l'actu aussi, tu en l'as pas dit, notre ami Alex Samuel.
Ah, bah ouais.
Au Club Barrière.
Ah, bah tiens, Alex Samuel.
Il a fait 4ème place du high-roller, là où Romain Lewis a gagné. Ah, et, ouais. Et hier, il a carrément gagné un 500.
Il y en a qui ont le droit au bonheur, qu'est-ce que je
te dis. Il m'a envoyé un texto, il a dit que du cul.
Que du cul. Bah ouais, moi je.
Du cul. 134 joueurs.
Ouais, peut-être pas de poker, on sait rien.
Moi j'ai que du cul.
Bon, on est au Bahamas et on joue un high-roller à 25 000. On est en heads-up, on n'est pas loin d'être assuré de 800 000 dollars de gains, mais il y a 1,4 million à la gagne. Un gros palier.
On est plus que deux, tu dis ?
Ouais.
Ah.
On a un stack de 1,8 million de jetons, au blind 25 000, 50 000, un peu moins de 40 blindes. On est de grosses blindes, et on ouvre As-2, As-2 carreau, As-2 cœur.
Non, As-2 carreau, 2 de cœur ?
As-2 carreau, 2 de cœur, ouais.
Ok. On est de grosses blindes ?
On est de grosses blindes. La petite blinde qui a plus de 4 fois notre tapis.
Oh.
Relance à 100 000. Est-ce qu'on paye cette mise avec As-2 en heads-up ? Daniel ?
100% du temps.
100% du temps, c'est mon bien.
Je payerai aussi.
Ah ouais. Pierre ? Notre prof ?
Moi, je vais, prof ouais, je vais... Alors, en fold de pas, ça c'est hors de question. Moi, j'ai plutôt tendance à sur-relancer ici pour mettre la pression sur mon adversaire. En plus, ces stacks à 40 blindes se prêtent bien à ce genre d'exercice puisque, en fait, ton adversaire est obligé pour répliquer. Souvent, par exemple, s'il a une main comme As-8 dépareillé, As-9, soit de forbet à tapis, soit de foldé. Donc,
J'ai failli dire de faire ça. Ouais,
donc là, je lui fais un petit 375 000, tu vois.
Ben,
les deux sont bien relancés, ouais. Collés. En fait, l'avantage de payer, c'est de sous-évaluer sa main au regard de son adversaire, donc on vient à As, on peut le laisser bluffer, on peut prendre la value un peu plus tard.
Check call.
Alors que 3 bêtes, et quand t'es payé, il y a quand même 85% du temps, le flop, t'es
derrière.
Tu tremblotes, quoi. Mmh.
Bon. Nous, on a décidé de call, le flop vient, 3 de carreau, dame de trèfle, 2 de carreau.
Ah oui.
Et c'est à nous de parler en premier. Je vous écoute, messieurs.
Je check.
Check chez Daniel, Moundir.
Ouais, check chez moi aussi.
On demande ton avis, Julien.
Check.
Allez. Les profs.
Check.
Voilà.
Alors, tu peux check. Yo Viral, il aurait mis une bête, je pense.
Ouais.
Comme il aime.
Comme on dit, normal bet.
Ouais, check.
Bon, on a décidé de check. Et en face, il a fait un C-bet classique, 100 000. Qu'est-ce qu'on fait sur cette mise ?
Oui. Bah, on paye une fois. Je vous invite à danser. Moi, je relance Herbert Léonard. Enfin, je colle Herbert Léonard. Pour le coller.
Daniel, avec ta paire de deux, tu fuis pas ?
Mais non, il est déjà en HU, il va toucher de l'oseille. Tu flippes. Il est heureux.
Il paye 100 000, mais il y a 1,4 million à la gagne. Hein. Il y a plus 100 000 de différence. Je t'ai payé. Pierre ?
Alors, on va checker certains deux, mais pas celui-ci, parce que ce deux-là a l'avantage déjà de battre tous les autres deux adverses, mais aussi il a l'avantage de nous donner deux paires sur un as, et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, notre adversaire, souvent, s'il y a un as au turn, c'est vraiment la carte magique, parce que notre adversaire, qu'il soit en bluff ou en value, va continuer à la miser. Donc, voilà, c'est une main qu'on va plutôt payer que relancer. Mais si on avait une main comme par exemple 5 et 2 suité avec un backdoor flush, c'est une main qu'on aurait plutôt eu tendance à se relancer.
Ben, t'es d'accord ?
Ouais, très validé.
Et ben nous, on a décidé de check raise. On a check raise à 250 000 et ça a été payé par notre opposant. Le pot fait quasiment 700 000.
Lui, il a payé tout de suite ?
Ouais.
Ah ouais.
Le turn as de.
Bah là, on est dans le cas de figure que décrivait Ben il y a deux secondes.
Que c'est beau.
Le cas de figure de qu'est-ce que si tu mises, qu'est-ce que tu fais quand l'autre il va te payer tranquillement ? Ok, d'accord. Donc
tu châtes l'as.
Voilà.
Donc c'est payé. C'est payé. Le pot fait 700 000. Turn as de trèfle.
Allez là.
On a deux paires.
Ah, il y a as au.
Ah oui, ça fait deux paires.
Et c'est encore à nous de parler. Est-ce qu'on check encore ? Est-ce qu'on mise ? Daniel.
Elle est compliquée celle-là. Alors là, dans l'idée qu'on avait tout à l'heure, non, moi, lui il a pas fait ce qu'on a dit, mais là évidemment.
Non, qu'est-ce qui retourne le cerveau là ? Et check, souffrir pour rien là.
Celui de Daniel.
Non, ça me faisait pas mal au cerveau. C'était juste parce que comme le gars n'a pas fait ce que nous on a dit, il fallait
mais bon, là.
Je check.
Voilà, moi aussi. Pareil.
Ben,
deux paires, moi je mise au moins un bitcoin.
Un bitcoin.
Ah oui.
Allez, 44 000 euros de mise sur la table. Pierrot, qu'est-ce que tu fais sur cette as ?
Alors c'est un board un peu compliqué parce qu'on a quand même des mains qui sont très fortes à la quatrième puisque 4 et 5 rentrent par exemple. Dans la théorie, c'est une carte qu'on est censé beaucoup checker parce que nous, nos auteurs as vont plutôt se contenter de payer, alors que notre adversaire peut avoir beaucoup plus de top pairs que nous, etc. Beaucoup plus de mains fortes, beaucoup plus de as dames, beaucoup plus de as rois, etc. De as valets. Dans la théorie, c'est un check. Maintenant, si notre adversaire est un peu calling station, etc., j'ai pas de mal à miser et à miser plutôt cher pour me faire payer par une dame qui pourrait check back ici.
Ok, check, c'est ce qu'on a fait. Un check. Notre adversaire n'a pas été d'accord. Il a misé 225 000 dans 700 000. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui revient dessus? Est-ce qu'on paye juste, Daniel?
Bon, là, moi, je paye.
Moundir.
Bah, écoute, je pense que je vais faire le fou, mais là, je pense que je le trop bête. Hein. Je suis prêt à partir à tapis. Je suis prêt à partir à tapis en flopant top 2, quoi. Pratiquement. Mm-hmm. Donc, là, je le trop bête.
Moi, je vois pas tellement ce qui va m'inquiéter, en fait.
Sur, bah, une dame, par exemple.
Une dame.
Ah non, tu veux dire à la rivière ou ce qui t'inquiète déjà, d'ores et déjà dans les mains potentielles adverses?
J'ai de grandes difficultés à imaginer que je puisse être battu.
Ah oui, non, pour le moment.
Là. Donc, et même en imaginant la rivière, je vois pas bien sur la rivière ce qui va pouvoir me faire flipper.
Bah, une dame, par exemple.
Voilà. J'allais dire.
La doublette.
Sauf le.
Mais les doublettes sont bien parce que ça fait de paire la dame.
Peu probable dame qui tomberait et lui qui a joué avec dame, j'en sais rien.
Mais surtout qu'on est derrière nous. Hein. Lui, il a trois fois le
jeton. Quatre fois
je tombe. Je lui mets tout dans les gencives. Hein.
Ouais. Donc, de toute façon, quoi qu'il se passe, je pense que j'irai au bout.
D'accord. Ah oui, non, mais là, est-ce que tu payes juste ou est-ce que tu le relances?
Là, je vais payer.
Moi, je relance.
Là, il a mis en 225 000, c'est
225
ça
225 000, ouais. La question qu'il faut se poser, c'est avec quoi il bête, en fait? Qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette main-là? Et est-ce qu'il a beaucoup plus de bluff que de main value? S'il a des mains value, c'est qu'on est généralement battu. Ou alors, il peut value Roi-Dame pour bloc et check-back.
Moi, je voyais Valet-Dame, Roi-Dame... As-Dame, j'ai...
Il peut avoir des Roi-Dame et des Valet-Dame. Dans ce cas-là, je pense que le play optimum pour ce genre de main en face, c'est de check-call et de donk river sur 98% des rivers. À part si double à dame, pour prendre un max de value, parce que check raise, ça va être dur pour lui de continuer avec une dame. Donc, moi, j'aurais tendance à check call pour se évoluer et peut-être overbet river.
Moundir?
Non, moi, je le 3-bet direct. Je suis prêt à partir à tapis déjà, même à la turn.
Ok. Bon, nous, on a décidé de juste payer.
Ouais.
River 5 de cœur. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Double check, on mise. Non, le 5 de cœur qui rentre.
Avec les 4
de carreau, dame de trèfle. 2 de carreau, as de trèfle, 5.
Bon, là, maintenant, il y a un 4, mais je vois pas quel genre de 4 il aurait pu avoir. Surtout
et bah, qu'est-ce qu'on fait alors?
Il en a plus.
Le pot fait plus d'un million.
4 suité.
Ouais, est-ce qu'on check ou est-ce qu'on mise?
Moi, je vais checker là encore.
Check chez Daniel Moundir.
Je suis placé dans un.
Moi, je dis que je porte un tapis à
une démarche attentiste depuis le début. Okay, je vais le suivre. En revanche, s'il mise.
Check call. Non, t'as dit tout à l'heure que t'étais prêt à.
Allez, je me demande si je vais pas plus loin.
Ouais.
Bah, si tu mises et que tu perds, t'es creepige derrière, quoi. Donc, c'est soit t'envoies, soit tu te couches.
Pierre, qu'est-ce que tu fais sur ce 5 river?
C'est une main qui est très compliquée parce qu'on a check raise, ensuite check call. Le
problème, c'est qu'on n'a pas fait comme le gars qui joue.
Non, mais je pense que notre adversaire peut quand même avoir beaucoup de. Enfin. En fait, il faut toujours déterminer, quand vous voulez donc bet, il faut toujours déterminer comment est-ce que les équités entre les éventails de mains sont répartis. Et plus cette équité est entre votre faveur, plus vous pouvez vous permettre de miser, d'accord? Donc il faut toujours réfléchir à est-ce que par exemple cette carte-là me favorise plus que mon adversaire. Et dans ce cas-là, on pourrait miser. Là, j'ai du mal à imaginer quel 4 on aurait. Non, j'ai tendance plutôt à checker et à plutôt check-call, quoi.
Ouais.
Ben, t'aurais misé?
Moi, j'aurais bien donc bet pour la simple bonne raison qu'on a un peu de 4 dans sa range. On a soit du 4, soit du bluff. Donc on peut tendre, forcer un hero call avec.
Quel bluff, franchement? T'as check-raise, check-call le turn?
On peut avoir. Non, c'est vrai, il y en a peu. Mais peu, de temps en temps, on peut avoir des recalls. Après, quand on check, soit il y a un check-back.
Soit il t'envoie un parpaing et t'es dans la merde, quoi.
Non, mais généralement, si tu bêtes et que t'es raised, t'es rarement bon, donc tu sais. Voilà. J'aurais préféré prendre un peu de value et.
C'est ce qu'on a fait, on a bet. On a misé 500 000 dans un pot de 1,1 million. Et qu'est-ce qu'on entend de l'autre côté?
Tapis.
Décision compliquée, river avec deux paires.
C'est ce que je dis. Depuis tout à l'heure, on se racasse la tête alors qu'on sait que quoi qu'il en soit, on va aller au bout.
Moi, c'est la turn, je le stoppais. Donc,
mais là, sur cette river, qu'est-ce que tu fais?
Tapis, bon, vas-y, je fold.
Ah, ouais, tu fold, mais t'as dit que tu veux. Tu
non, j'ai dit pas à turn. À turn, j'envoie. Là tu bêtes demi-pote, le mec, il te revient dessus. Il n'est pas en bluff du tout. Il n'est pas en bluff du tout.
Il peut.
Mais il n'est pas en bluff du tout. Ou il a touché sa din card.
Il ne fait pas ça avec une grosse dame. Il ne fait pas ça.
Il a touché sa din card. Attends, il ne peut pas. Il just call. Ce n'est pas possible. En temps normal. En plus, il nous reste combien de blindes derrière? 20 ou même pas? Même
pas 10. Ouais, un peu plus.
Tu bêtes demi-pote pour quelqu'un.
Ouais, c'est payé.
C'est payé chez Daniel. Pierre Calamusa, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'il est que tu.
Bah, je vais aller comme bet, je fold.
C'est un fold chez Ben.
Moi, oui, je dans la tête d'un fiche, vu qu'on est fiche, je paye parce qu'on est un fiche.
Tu payes.
Et ben nous, on a. Il faut passer.
Et pour ça, Benjamin, que j'ai payé.
Ouais, mais arrêtez que c'est.
J'ai fait honneur à mon statut.
Nous, on a fini par fold et en face, il y avait Vanessa Selbst qui avait 6 et 4 de trèfle.
Donc, 4 max.
Ouais. Tu vois. Donc. Et qui j'ai gagné mon coup à
turn. On a perdu quelques bitcoins. Voilà. Je sais pas qui en face, je ne sais pas.
Eh ouais, Daniel.
La bonne démarche, c'était bah oui. À turn.
À turn, de tout lui mettre dans les dents.
C'est... Ah, mais tu perdais, elle avait straight au turn.
Non, c'est Rivière. Non, ouais, c'est Rivière.
Ça rentre River. Le, ah. Le 5 lui donne.
Rivière. Ouais.
Attends, oui, mais elle a collé ventral au flop, c'est ça? Après, elle a misé le turn.
Elle a deux trèfles, en fait. Avec l'as de trèfle, elle a deux trèfles. Elle a tirage aussi.
Qu'est-ce qu'elle devient? Elle a quitté le circuit? Elle a quitté le circuit?
Elle est professeure, je crois. Et il y a eu cette anecdote hyper marrante d'une de ses élèves qui vient. Et qui lui fait putain donc j'ai vu que pas du pas putain d'ailleurs parce que c'est sa professeure, elle lui fait ah madame professeure vous savez mon oncle aussi est joueur professionnel de poker, elle se fait oh putain elle va encore me parler d'un gars qui joue en L2. Et là, il fait, ah oui, donc pour être poli, il fait, ah oui, c'est quoi son nom? Et elle a dit, Phil Ivy.
Oh là là.
Elle est prof de quoi?
Je sais pas de quoi, mais il y a eu cette anecdote qui était assez marrante, voilà.
Merci beaucoup, Jérémy, pour ce très beau dans la tête. Merci d'un fiche. Là, on s'est, bon, perso, je me suis bien ramassé, mais vu que j'avais été parfait depuis à peu près 6 mois.
Mais, à chaque émission, il rajoute des mois, tu sais.
Pas raté un depuis très longtemps.
Comme le bitcoin, tu sais, ça monte, ça descend. Ça.
Julien Rodias, merci beaucoup d'être venu nous parler de la crypto-monnaie. Benjamin Pollack, c'est toujours un plaisir de te recevoir.
Un plaisir.
Merci, Benji.
Juste un dernier mot quand même, là-dessus, t'as quoi en programme, là?
2022, un enfant déjà qui arrive au printemps prochain, mais 2022, on va réattaquer un peu tout ça, on va remuer un peu la.
Le fameux Prague en mars?
Ouais, sans doute.
C'est quoi, c'est Charon en attendant? Tu grindes un peu?
Ça m'est arrivé d'y aller, mais de temps en temps, histoire de.
Ça peut pas perdre la main, un peu comme le vélo. Okay. Un peu comme le vélo.
Pierre, à très bientôt.
Merci beaucoup, le dimanche prochain.
Ah bah génial.
Et ce sera la dernière de la saison, enfin de l'année civile, hein, parce qu'après on se retrouvera début janvier. Merci Moundir, on vous embrasse.
Salut Daniel, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Jusqu'à une heure.
C'est le RMC Poker Show.